Brunswick, la langue, c'est un débat, c'est un sujet qui revient souvent et avec raison. On est la seule province au pays qui est bilingue. Donc, ce qu'on sait, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit se faire servir en français ou en anglais, dans la langue de notre choix, dans tout ce qui est instance publique. Ça veut dire que tu vas dans un... Moi, normalement, on t'appelle un ministère, des choses comme ça. La personne doit être en mesure de te parler soit en français, soit en anglais. Et il s'est passé... comme il y a quand même un gros événement qui s'est passé à Grand-Sault, justement, là-dessus. Et puis, ben, on a, pour en parler, Gérald Clavette, qui est ancien député et ministre aussi libéral ici dans la province. Dernièrement, vous avez fait un très beau don à la bibliothèque aussi publique d'Edmundston. Fait que si on peut, ça permet aux gens peut-être replacer, juste faire sûr, parce que moi on se parlait, puis j'étais comme, on s'est vu, là. Mais fait qu'on se replace, là. Ça va bien?
Ça va bien, oui.
Ça va bien, Miguel. Oui, super, génial. On n'est pas sur le bon micro. Faudrait prendre celui-là. Désolé, ça c'est moi qui ai mal organisé ça.
D'accord.
Bon, c'est parfait, là. Bon. Ça sonne très très bien. Donc, peut-être nous parler de ce qui s'est passé à Grand-Sault, là. Il y avait beaucoup d'intervenants qui étaient sur place pour parler vraiment de peut-être comment la langue française peut être priorisée ou même la langue de choix, en fait, dans la province.
Oui, bien, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ce comité permanent sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick, qui actuellement fait une tournée dans la province, justement, mais c'est la première fois qu'il y a un comité permanent de l'Assemblée législative pour s'occuper justement des discussions au niveau de la loi sur les langues officielles. Alors, c'était leur première session mardi à Grand-Sault. Et en fait, j'ai profité de l'occasion, en fait, pour aller donner ni plus ni moins ma réaction aux recommandations du rapport Finn McLaughlin, qui, lui, a été déposé à l'Assemblée législative. Je pense que c'est en 2021 ou 2022. Et le but de ces audiences-là, c'était de, justement, faire des recommandations ou, en fait, ni plus ni moins, faire un peu d'analyse sur les recommandations du rapport Finn-McLaughlin de 1921. Alors, moi, j'ai surtout voulu attirer leur attention parce que, en fait, c'est une période de, comment on dirait ça, on avait après une période de 10 minutes pour faire une présentation. J'ai voulu surtout faire, en fait, ni plus ni moins, attirer leur attention sur deux des recommandations.
Lesquelles?
La première, c'est ni plus ni moins le fait que le rapport ou les deux auteurs du rapport Finn-McLaughlin, en fait, pour les citer, disaient ni plus ni moins que les fonctionnaires de certains ministères, les coordonnateurs de certains ministères semblaient ne pas avoir suffisamment de connaissances, en fait, de la loi et des droits sur les langues officielles, et deuxièmement, ne semblaient pas avoir suffisamment de pouvoir pour intervenir, disons, au niveau de la loi sur les langues officielles. Donc, ce que j'ai recommandé, justement, c'est s'assurer à ce que les coordonnateurs aux langues officielles dans chacun des ministères, bien, premièrement, que ce ne soit pas n'importe qui au niveau du ministère qui joue ce rôle-là, qu'ils soient bien au courant de leurs droits et de leurs responsabilités également, à faire en sorte à ce que la loi sur les langues officielles, comme vous l'avez indiqué au début, nous sommes la seule province officiellement bilingue. Il y a d'autres provinces qui donnent des services bilingues, mais nous autres, elle est officiellement bilingue. C'est-à-dire
c'est
que
une obligation.
C'est une obligation. C'est une obligation légale du gouvernement de s'assurer à ce que les ministères puissent servir le citoyen au Nouveau-Brunswick dans la langue de son choix. Alors, c'est important, naturellement, que c'est tout à fait logique. Et c'est pas moi qui le dis. Ce sont les commissaires. Commissaire Finn, commissaire McLaughlin, disait il y a un manque de au niveau des coordinateurs, il y a un manque de connaissances, il y a un manque de sensibiliser, il y a un manque au niveau de leur pouvoir aussi pour implanter justement la loi sur les langues officielles dans les ministères au Nouveau-Brunswick. Alors, c'était ça ma première recommandation.
On a tendance à se dire, ben écoutez, c'est souvent les gens qui sont anglophones, qui ont moins de connaissances sur les langues francophones ou qui sont peut-être moins capables d'appliquer cette fameuse loi-là, de dire, par exemple, on prend un fonctionnaire quelconque, on va l'appeler Monsieur X, là, qui est anglophone de naissance. Des fois, on a tendance à croire que c'est ceux qui s'adaptent moins, disons, mais probablement aussi que le contraire. Il y a probablement des gens qui, la langue française est leur langue principale, puis qu'ils ont de la misère à respecter ça, là, le fait d'être capable d'offrir le service aussi en anglais. Ou est-ce que je me trompe là? C'est ça. Va surtout dans quel sens? L'anglais vers le français ou le français vers l'anglais?
Ben, on ne peut pas dire, mais c'est certain qu'en général, c'est certain que dans la fonction publique et en général au Nouveau-Brunswick, ce sont les francophones qui sont le plus bilingues. Mais peut-être de notre côté, c'est peut-être autant les anglophones qui ont besoin de services, dépendant des régions. Ça dépend de la démographie de certaines régions. Je sais que si on prend le Nord-Ouest en particulier, ben, je pense que la très, très grande majorité des gens n'ont pas besoin de services, comme on dit, en français, dans la région comme telle. Mais lorsqu'ils appellent à Fredericton, là, c'est s'assurer que la fonction publique de Fredericton soit en mesure de leur répondre dans la langue, dans leur langue maternelle ou dans la langue de les choix. Donc, tout dépend des services et tout dépend des régions.
Je parle par expérience parce qu'on a rejoint des gens de partout là, dans la province, côté gouvernemental, on veut parler, là, je mets pas personne sous l'autobus, sous un autobus, là, mais c'est juste que ça nous est arrivé souvent d'appeler dans certains ministères et puis se rendre compte qu'on peut absolument rien faire parce que la personne ne parle pas français ou que personne même qui est capable, exemple dans le bureau de parler en français, c'est quand même, à chaque fois on tombe un peu en bas de notre chaise, là.
Oui, oui. Ben ça, c'est une... on déplore ça, puis c'est une des lacunes au niveau de... La capacité de donner, justement, d'avoir la prestation des services dans deux langues officielles. Et surtout, écoutez, là, la loi sur les langues officielles, elle a été modifiée à certains endroits, mais elle existe quand même depuis 1969. Donc, ça fait 57 ans, là. Et qu'on n'a pas totalement trouvé les moyens de bien livrer, justement, les services au complet, au Nouveau-Brunswick, dans les deux langues officielles. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des audiences. C'est une des raisons pourquoi que la loi sur les langues officielles doit être revisée à tous les 10 ans. C'est pourquoi il y a un gouvernement. C'est pourquoi il y a une assemblée législative. C'est pourquoi il y a un comité à l'heure actuelle, comité permanent, qui était en somme, je pense, la première recommandation du rapport Finn-McLaughlin. Mais l'ancien gouvernement n'avait pas jugé bon de l'implanter, cette recommandation-là, alors que le gouvernement actuel a cru bon d'implanter justement cette première recommandation pour faire en sorte à ce que les députés, indépendamment des partis politiques et indépendamment de leur capacité linguistique, puissent justement se rencontrer et discuter de la problématique d'être dans une province qui est officiellement bilingue depuis 57 ans.
Mais justement, moi, là, quelque chose qui me jette à terre, là, on parle, ça fait 57 ans. Les politiciens, là, quand ils se présentent, là, puis on parle de politiciens, mais on peut parler de n'importe qui dans ces domaines-là, là, qui ont l'obligation de parler dans les deux langues pour justement là, se faire comprendre la personne qui demande. Pour quelle raison est-ce qu'il n'y a pas une obligation? Visiblement, il n'y en a pas d'obligation. Je veux dire, normalement, tu rentres à un travail, tu as un CV, puis il y a des. Est-ce que tu coches ça? T'as-tu telle expérience? Es-tu capable de faire ci, de faire ça? On demande à quelqu'un là, de maintenance, de dire, es-tu capable de réparer des petites affaires, puis tout. Mais pourquoi qu'on ne demande pas, avant que ces gens-là se lancent en politique ou quoi que ce soit, es-tu officiellement capable de parler dans les deux langues? Si oui, ben on va te faire faire un petit test, là. Ça fait bizarre de dire que ça devrait être ça.
M'excuse, je ris un peu, Michael, parce que, écoute, il y a quand même un principe de base. Quand la loi sur les langues officielles a été acceptée, et c'est encore là, dans le sens que il n'est pas obligatoire d'être bilingue pour avoir un emploi dans la fonction publique. Il n'est pas obligatoire. Disons, dans la loi. Maintenant, c'est... Je comprends que c'est pas facile à comprendre.
Non.
Okay. Non, c'est le rôle du gouvernement de s'assurer à ce que, pour livrer les services dans les deux langues officielles, qu'il appointe des personnes, qu'il nomme des personnes qui sont bilingues.
OK, vu... Oui.
Il y a une différence. Oui. C'est peut-être une mince différence à comprendre pour le commun des mortels, mais c'est une grosse différence légalement. Et tu viens, en somme, viens juste de soulever le point que la Cour suprême du Canada, le jugement de la Cour suprême du Canada, a sorti vendredi dernier, qui est un point très litigieux. Parce que la Cour suprême du Canada, vendredi dernier, a décidé, pas unanimement, 6-3, que dorénavant, le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, comme institution, devra être bilingue. Auparavant, c'était au gouvernement fédéral. C'est toujours le gouvernement fédéral qui nomme le lieutenant-gouverneur. OK? Mais parce qu'il a nommé un lieutenant-gouverneur unilingue, et ce n'est pas arrivé une seule fois, c'est arrivé deux fois, je crois. OK? Mais dorénavant, la Cour suprême, dans un jugement non pas unanime, par exemple, OK? Fait en sorte à ce que, dorénavant, le poste de lieutenant-gouverneur, disons, devra être bilingue. C'est une grande victoire pour la communauté francophone, pour la communauté acadienne, je n'en doute pas. Mais il y a des conséquences à ça. Et c'est pour...
je fais des visages là, qui veulent te dire.
La première conséquence, c'est que, premièrement, lorsque la loi sur les langues officielles a été promulguée et lorsqu'elle a été modifiée, il a toujours été sous-entendu, et même si dans la loi, qu'il n'y a pas de poste directement qui sont légalement obligatoires d'être en français. C'est le rôle du gouvernement de le faire, l'exécutif. Écoutez, on a trois pouvoirs dans notre démocratie au Canada. Tu as le pouvoir exécutif, qui est le gouvernement, tu as le pouvoir législatif, qui est l'Assemblée législative, et tu as le pouvoir judiciaire. C'est malheureux ici dans les circonstances qu'on a été obligé d'aller au pouvoir judiciaire pour dire à l'exécutif quoi faire. Non. C'est ce qui est arrivé.
Dis de même, là.
C'est ce qui est arrivé. C'est que, disons que normalement, le gouvernement aurait dû nommer un lieutenant-gouverneur bilingue. Historiquement, depuis la loi sur les langues officielles, ça s'est produit. À l'exception, deux occasions. Lorsque ils ont nommé quelqu'un pour représenter la minorité autochtone. Lorsque le chef Nicholas a été nommé, lui, il n'était pas officiellement bilingue. C'est malheureux qu'il n'ait pas trouvé un autochtone qui pouvait représenter des autochtones et qui soit bilingue. Ici, ça a été la même chose avec Mme Brenda Murphy. Elle a représenté une autre minorité au Nouveau-Brunswick, mais malheureusement, elle n'était pas bilingue. Et c'est là qu'il y a eu une réaction. Puis, ils sont allés à la Cour suprême, à la Cour suprême, et celle-ci, non pas dans un jugement unanime, mais dans un jugement 6-3, ont justement décidé. Et dorénavant, il y aura des conséquences à ça. Et dorénavant, des postes comme ça devront être bilingues. On peut avoir créé un précédent, mais c'est certain que pour la communauté francophone, il n'y aura jamais de lieutenant-gouverneur unilingue au Nouveau-Brunswick, qui est, en tout dire, un poste purement symbolique. Que si on pouvait, il y a bien des gens qui voudraient se débarrasser de cette monarchie. C'est de valeur que c'est arrivé pour un poste comme ça, mais en tout cas, il est là quand même, c'est une victoire, mais... Personnellement, je crains qu'il y aura des conséquences à venir.
La suite dans tout ça, parce que là, on parle d'un rapport qui date d'il y a quelques années. Là, les gens sont invités à parler, tout, là, sont du côté, si je ne me trompe pas aujourd'hui, à Campbellton.
Exactement.
Grand-Sauillère. Mais là, un coup, là, tout a été dit et tout, là, c'est quoi la prochaine étape? Parce que souvent, c'est beau de dire on en parle, mais il faut que ça aboutisse à quelque chose.
Bien, c'est justement, c'est ça le rôle du comité permanent sur les langues officielles. En réaction au rapport Finn-McLaughlin. Alors, il y a plusieurs recommandations. Une des recommandations que le gouvernement a acceptée, c'est celle justement d'avoir un comité permanent. Alors, ce comité permanent actuellement fait le tour de la province, écoute les gens, écoute les associations, ils ont même déjà reçu des mémoires, et à partir de ça, OK, eux autres, ils vont recommander à l'Assemblée législative et au gouvernement d'implanter une, deux, trois, quatre ou pas du tout. Espérons qu'ils acceptent les recommandations du rapport Finn. Alors, c'est ça le but du comité permanent et on espère que justement ce comité-là recommande ni plus ni moins toutes les recommandations du rapport Finn-McLaughlin. Et en tout cas, moi, dans 10 minutes, là, j'ai seulement eu le temps de m'adresser à deux recommandations et j'espère que ces recommandations-là seront acceptées également.
Ben avec tout le travail qui se fait depuis des années et puis tous les ardents défenseurs de la langue française, puis il y a probablement aussi, on peut parler dans les deux langues, il faut le dire dans les deux langues là aussi, il n'y a pas juste des gens qui... Il ne faut pas non plus penser que c'est juste les francophones qui se sentent opprimés, oppressés là, non plus dans la province. Là. On a des fois tendance à le penser, là, mais je veux dire, il y a des exceptions dans tout.
Oui, mais n'oublions pas que dans le monde actuel, quand même, au niveau des communications et surtout au Nouveau-Brunswick, bien, il y a quand même encore des gens qui refusent le bilinguisme. Pour eux autres, c'est pas un besoin, c'est pas une nécessité. Alors, n'oublions pas que, en fait, ça relève justement... le rapport Lorando Dunton en 1967 ou 68 qui avait recommandé qu'il y ait deux provinces qui soient bilingues au Canada, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Seul le Nouveau-Brunswick est devenu officiellement bilingue, OK? Alors, parce que, à cause du pourcentage, le pourcentage de notre population, n'oublions pas, à ce moment-là, était à peu près, nous étions au moins 32 % de la population du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, malgré toutes les instances et les efforts qu'on fait, bien, il y a plus de personnes bilingues, oui. On augmente d'environ, et je le mentionne dans mon rapport, environ 1 % par année. Mais, d'un autre côté, la population du Nouveau-Brunswick augmente aussi. Nous étions peut-être 750 000 à ce moment-là. Aujourd'hui, on dépasse les 830 ou 840 000. Et, d'un autre côté, notre proportion de francophones diminue. On est rendu, selon les derniers recensements, peut-être à seulement 28 % de la population qui est francophone. OK? Alors, recensement après recensement, parce qu'il y a plus d'anglophones qui viennent au Nouveau-Brunswick, qui immigrent au Nouveau-Brunswick, ce qui fait que notre poids démographique et notre poids politique diminuent également. Alors, ça, c'est un des enjeux, le plus grand enjeu pour la francophonie au Nouveau-Brunswick, au Canada et même dans le monde. C'est le poids démographique et le poids politique en même temps. Parce que c'est ton poids démographique qui décide justement souvent de ton poids politique. Et ça, c'est peut-être pas facile à comprendre, là, mais c'est ce qui se produit à l'heure actuellement.
Monsieur Clavette, merci beaucoup d'être passé.
Ben, ça me fait plaisir, aucun temps. Ça
fait plaisir aussi. On se reparle.
Merci, Miguel.